Tu as pêché où? Baobab, acajou.
Dur de la feuille.
Baobab, acajou. Tu as pêché où?
L'émission qui susurre à vos oreilles.
Huron, cyprès, pin, élan de palissandre. Mes lèzes tremblent, tremblent être noyés.
Bienvenue dans un épisode spécial de la série Feuilles de chou. La série qui interroge et nourrit l'information du vivant. Chaque épisode relate une actualité dans ses moindres recoins pour comprendre ce qu'elle signifie pour le vivant. Dans cette lancée si réaliste, je vous propose ensuite un extrait d'un récit fantastique avant de connaître les rendez-vous et éléments précieux à ne pas manquer. Le sujet du jour. Lundi 9 janvier 2023, présentation par le gouvernement du plan sécurité à la chasse. Que signifie l'action de chasser pour les écosystèmes vivants? Quelle est l'évolution de la chasse depuis que celle-ci a débuté sur ce territoire? Cette prédation, action de tuer et consommer une proie, est commune à de nombreux êtres vivants. Qu'est-ce qui nous différencie de ces derniers? Et pour revenir à notre actualité du jour, en quoi ces mesures pourraient constituer un changement dans les pratiques? Par quoi sont-elles motivées? Parler de prédation nous amène en écologie scientifique à cerner un peu mieux ce réseau du vivant où les organismes interagissent entre eux. Car oui, dans ce réseau, les organismes se mangent entre eux, ce qu'on appelait autrefois la chaîne alimentaire, mais pas uniquement. Les individus peuvent aussi s'allier pour profiter au mieux des ressources du milieu, le mycélium et les arbres par exemple, ou avoir des échanges de micro-organismes influençant leur système interne, le cas très parlant des virus et des bactéries. Mais revenons-en à notre bonne vieille prédation. Un prédateur a des capacités physiques incroyablement développées pour traquer et tuer sa proie. En réponse à cette prédation, les proies ciblées ont développé d'autres capacités physiques pour échapper et se défendre face à son ou ses prédateurs. Les tanins dans les feuilles pour éviter aux herbivores de trop manger la plante par exemple. Ou encore, l'agilité et la rapidité du lapin pour échapper au renard. Ces capacités physiques sont le fruit de ce que l'on nomme l'évolution naturelle. De même, lorsqu'un individu n'est pas assez vaillant pour échapper à son prédateur, il est condamné à mourir. Le prédateur aime ainsi cibler des proies plus faibles pour limiter la perte d'énergie. En le retirant de la population, il permet quelquefois de limiter la transmission d'un patrimoine génétique moins bien adapté au contexte, et donc d'augmenter la capacité de survie de la population de proies dont il se nourrit. Un patrimoine génétique, ce n'est pas seulement pour avoir de jolis yeux. Dans ce cas précis, il permet à chaque être vivant de se différencier dans sa capacité à survivre, à s'acclimater face à des perturbations. Dans cette giga-machine du vivant, le renard mangeant le lapin faiblard ou le jeune inexpérimenté contribue à ce que la population de lapins ait une descendance où les probabilités de lapin faiblard sont diminuées. Bon, ce procédé, vous le connaissez, il s'agit de la sélection naturelle. Ça, c'est dans une situation où les lapins ont des populations bien garnies et sans perturbateurs autres que les événements climatiques parfois un peu intenses ou encore la diminution d'une de leurs ressources alimentaires car une autre espèce animale qui mange les mêmes salades est arrivée sur leur spot. Ah oui, car n'oublions pas une chose, je n'ai pas parlé de populations de renards qui augmentent jusqu'à faire disparaître les lapins. Dans un écosystème, il y a ce qu'on appelle le seuil de croissance d'une population. En clair, lorsqu'une ressource vient à commencer à manquer, une sorte d'auto-régulation se met à l'œuvre et le nombre d'individus prédateurs diminue également, jusqu'à permettre à la ressource de se reconstituer. Les espèces prédatrices les moins exigeantes vont parfois s'acclimater en changeant leurs ressources de prédilection. Ainsi, plusieurs chenilles de papillons ont été observées sur d'autres plantes que celles qu'elles fréquentaient habituellement.
Thank you.
Essayons maintenant de comprendre comment la chasse, le prélèvement d'individus dans un écosystème, peut impacter sur ce dernier. C'est un peu le jeu des 7 différences avec notre collègue le renard. Maître renard prend le plus faiblard. Qu'en est-il de monsieur Homo sapiens sapiens? N'aime-t-on pas avoir le plus gros gibier, la plus belle bête à exposer? Maître renard aura une plus faible descendance à mesure que sa ressource diminue. Vaste sujet épineux pour monsieur Homo sapiens sapiens. Maître renard tentera de trouver d'autres ressources, évitant ainsi l'extinction de son mets préféré. Monsieur Homo sapiens sapiens emprunte actuellement plusieurs chemins. Quelques-uns lui permettront peut-être de pallier à ce problème d'extinction. Chasser, ou devrait-on dire prédater au sens biologique, est inscrit dans notre code génétique d'être vivant qui a besoin de se nourrir pour vivre. Certains Homo sapiens sapiens prédatent des plantes en bons herbivores. D'autres adoptent un régime mixte avec la consommation de viande. Le prélèvement par l'Homo sapiens sapiens dans des écosystèmes ne date pas d'hier. Ses ancêtres, les Homo habilis, chasseurs-cueilleurs, prédataient également plantes et animaux. Ce qui a drastiquement changé depuis le paléolithique il y a 3 millions d'années environ, c'est l'environnement dans lequel nous vivons. Les forêts ne dominent plus le territoire, l'industrialisation et l'artificialisation des sols ne cessent de réduire les ressources et abris pour les animaux, humains compris. Le paysage est fragmenté, les communautés réduites au point où des dégénérescences génétiques sont observées, entravant ainsi la capacité de résilience, la résistance, de ces individus face aux perturbations. À cela s'ajoute un phénomène de notre composition, les rejets de perturbateurs endocriniens dans l'eau et le sol. Ces derniers n'ont pas un effet immédiatement visible, mais de nombreuses truites, les poissons je veux dire, ont désormais du mal à trouver le mal de leurs rêves. Appuyer sur la tête de celui qui chasse au vent pour éviter des morts humaines injustes ne met pas à jour le véritable problème qui se cache dans ce qu'il reste de nos forêts. Certes, prélever sans conscience de la fragilité de plus en plus accrue des écosystèmes peut amplifier le phénomène existant, mais ce n'est pas pour autant que ces quelques individus en sont à l'origine. Les écosystèmes, dans toute leur diversité, assurent de moins en moins les connexions nécessaires aux vivants pour assurer sa propre survie. Ce n'est pas un hasard si l'Agence française de la biodiversité s'est associée à l'Office de la chasse pour devenir depuis peu l'Office française de la biodiversité. Le savoir scientifique doit pouvoir s'allier à un déploiement sur le terrain d'Homo sapiens sapiens avec toute leur capacité mentale d'observateur et d'être vivant. Adieu viré de chasse à coups de schnapps, même si les mesures avancées amène par la contrainte cette règle de sobriété et de prudence, il est agréable de penser que le chasseur des sous-bois a un rôle autre que celui de se distraire. C'est peut-être le plus fidèle observateur de la vie en dehors des villes. Le plan de chasse amené par le gouvernement fait suite à une proposition formulée par Charles Fournier pour aménager des temps où le simple promeneur n'a pas à se soucier des gilets jaunes armés. De même, il avait également remis en cause la pratique des chasses dites traditionnelles, à court et en clos. Ce dernier point est intéressant du point de vue écologique pour éviter le retrait des individus, avec le patrimoine génétique a priori le plus adapté au milieu. Souvenez-vous, un gros animal bien portant est un animal qui est capable de se procurer des ressources en suffisance, donc un animal bien adapté à son environnement, lorsqu'il est en liberté bien entendu. On ne parle pas des animaux élevés pour la chasse. Libérons-nous un instant de la fourmilière pour rejoindre une lecture dans les sommets de Haute-Savoie. Votre mission consiste à retrouver dans ce récit fantastique ce qui diverge désormais du réel. Le poids du papillon. Première partie. La chaîne du Bargy. L'homme contourna une moitié de la montagne, puis il escalada une fissure qui s'élargissait jusqu'à laisser passer le corps tout entier. Elle devenait aussi large qu'un conduit de cheminée, et le souffle dans l'ombre sortait en vapeur. Dans son ascension, il dépassa le niveau du troupeau, continua jusqu'à une petite terrasse. De là, un étroit sentier longeait la paroi. Il le parcourut et finit par apercevoir plus bas le pâturage des chamois. Son odeur se dégageait vers le haut, loin de leur muqueuse. Le roi n'était pas là. Impossible qu'il soit là par un jour de visée si facile. La paroi était au soleil, l'air montait d'en bas avec une poussée d'ascenseur. Les ailes noires se laissaient soulever jusqu'au sommet. L'homme s'allongea sur les cailloux au-dessus du précipice. Il tendit son cou au-delà du bord, renifla l'air que respiraient les chamois. Il fut surpris de sentir le parfum d'amande des glandes venant de si bas. L'essence donne une dernière acuité dans le temps final de la vie, une flambée. Il le savait et ajouta l'étrange capacité de son odorat aux fatigues de ses derniers jours. Ce n'était pas l'effort qui l'essoufflait, mais un début de fléchissement. Étendu sur les pierres, il reprenait sa place de suprématie, il épiait sans être vu. Au-dessus de lui, se perdaient les cris des oiseaux. Il ne prévenait sûrement pas les chamois de la présence de l'intrus. Les oiseaux au-dessus de lui étaient du côté de la chasse. Le canon du fusil avait ramassé des fils d'araignées dans les passages. Il les laissa, ils étaient de bon augure. Œuvre du plus grand chasseur du monde qui dessine des pièges dans l'air pour capturer des ailes. L'araignée était une collègue. Dans sa cabane, les fils d'étoiles d'araignée étaient tendus autour de la fenêtre. Ils brillaient au soleil pour accrocher les vols. Les araignées fixaient des filets avec un centre et attendaient. Les proies viennent à elles. L'homme devait escalader pour aller au centre des proies. L'araignée était le plus fort des chasseurs. Dans sa position, encore à l'ombre, l'homme voyait briller au vent un fil de toile d'araignée collé sur le canon de son fusil. Un papillon blanc alla se poser dessus. Il le chassa d'un léger mouvement pour l'enlever sans le toucher. Son vol saccadé en zigzag était l'opposé de la balle en plomb chargée dans l'obscurité du canon brillant, avec sa ligne droite vers la grosse cible. Un papillon sur un fusil le tourne en dérision. Sa visée est tournée en ridicule par le vol saccadé qui, où qu'il tombe, porte en lui le centre atteint. Là où se pose le papillon, c'est le centre. L'homme le chassa d'un geste lent et d'un souffle de rejet. Bovins, chamois et bouquetins sur le bargis font l'objet d'un abattage massif pour éviter de transmettre aux élevages une bactérie qui affecterait l'humain par ingestion des productions laitières. Le bouquetin, espèce protégée et en disparition sur le territoire, est majoritairement ciblé. Les jeunes femelles sont les premières à être exécutées. Chasser la bactérie est un sport peu médiatisé, tout comme la destruction ou la perturbation des habitats favorisant l'émergence de ces bactéries. La chasse attise notre sensibilité. Les artistes se saisissent donc du sujet pour s'interroger sur le rapport de l'humain à la chasse et au vivant. Parmi eux, on peut citer Eva Jospin avec son œuvre La Galliera. Il s'agit d'une architecture modelée en carton ondulé dans laquelle le visiteur peut se promener. Des jungles impénétrables ou des troncs formés de tranches de carton empilées reçoivent en pluie de délicats branchages qu'un seul geste malencontreux anéantirait. De la même façon, l'exposition Incursion sauvage au musée de la chasse et de la nature à Paris propose l'intervention éphémère de 7 street artistes internationaux sur les murs et façades du musée. Et ce, pour amener l'hybridation et la mythologie comme solution à la cohabitation entre l'homme et la nature. La série Histoire vraie de Sophie Kahl est particulière pour la méthode de création employée. Celle-ci emprunte certains aspects à la pratique de la chasse. Pistage d'anonymes croisés dans la rue, jeu de rôle pour devenir la proie en confiant à un détective privé le soin de suivre ses faits et gestes. Ces œuvres sont le fruit d'une recherche sociologique intense pour comprendre celui qui chasse et celui qui est chassé. Mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi.
Mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi. C'est le chant du silo qui suffit, qui joue avec les âmes et ouvre les volets de la perception.
Tu y as pêché où, baobab, d'acajou?
Cette série reviendra au gré de la pousse du chou. La semaine prochaine, retournons écouter des amoureux de l'écologie cuisiner aux petits oignons.
De palissandre, mais les œufs tremblent, tremblent être noyés.